VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h à Dakar au Sénégal, 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le gouvernement soudanais a cherché aujourd'hui à minorer l'ampleur de la répression sanglante des derniers jours contre la contestation, déterminée de son côté à poursuivre la lutte pacifique contre le pouvoir militaire malgré la peur liée à l'escalade de la violence. Dans un premier bilan officiel, le ministère de la Santé a affirmé via l'agence officielle SUNA que le bilan des victimes de la répression depuis lundi n'avait pas dépassé 46, démentant les chiffres relayés jusque-là par un comité de médecins proches de la contestation. Et selon ce comité, au moins 108 personnes ont été tuées et plus de 500 blessées en 3 jours, pour la plupart dans la dispersion brutale d'un sit-in devant le siège de l'armée lundi à Khartoum. Aujourd'hui, les principales artères de la capitale étaient ouvertes avec un déploiement important des forces de soutien rapide, les RSF, des paramilitaires attachés aux services de sécurité, présentés par leurs détracteurs comme un avatar des redoutables milices Janjaweed ayant sévi au Darfour. Les RSF sont accusés d'être les principaux auteurs de la répression sanglante depuis lundi. Au Sénégal, le président Macky Sall a dénoncé hier une tentative de déstabilisation 3 jours après des accusations de corruption d'un média étranger contre l'un de ses frères. Le point avec Eric Manirakiza.
Nous savons que là où il y a du pétrole, certains vont tenter de déstabiliser le pays. Le gouvernement va poursuivre cette affaire, a déclaré hier le président Macky Sall après la prière de la Corité au Eid al-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Je tiens à ce que la vérité soit rétablie, a-t-il ajouté, sans citer le nom de son frère. Toutefois, nous n'accepterons pas de fausses accusations, a averti le chef de l'État qui réclame des preuves, promettant de sanctionner s'il faut sanctionner. La BBC a affirmé dans un reportage que la société de l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timmis avait secrètement versé une prime de 250 000 dollars à Agritrans, une société contrôlée par Aliou Sall, frère cadet du président sénégalais. L'ancien journaliste Aliou Sall a qualifié de totalement fausses ces informations et a promis de poursuivre en diffamation la chaîne publique britannique.
Les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar en Libye ont mené aujourd'hui un raid aérien contre le seul aéroport fonctionnel de la capitale, sans faire de victimes ni provoquer la suspension du trafic. Après avoir annoncé dans un premier temps que le raid avait visé la piste de l'atterrissage, l'aéroport de Mitiga a précisé plus tard sur sa page Facebook officielle que la frappe était loin de la piste et que tout fonctionne normalement. L'aéroport de Mitiga est une ancienne plateforme militaire utilisée pour le trafic civil en remplacement de l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé en 2014 par des combats. 14 djihadistes présumés ont été tués lors d'opérations des forces de sécurité dans la péninsule du Sinaï en Égypte au lendemain d'un attentat qui a coûté la vie à 8 policiers, a annoncé aujourd'hui le ministère égyptien de l'Intérieur. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique a visé un barrage de la police à l'ouest d'Al-Arish, chef-lieu du Nord Sinaï dans le nord-est de l'Égypte. Il s'est produit au début de la fête musulmane du Fitr, marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. 5 terroristes ont été tués et certains ont pris la fuite, ont indiqué mercredi les autorités. La Somalie fait face à un risque important de famine en raison de l'une des pires sécheresses vécues depuis des décennies, a averti mercredi le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires Mark Lowcock. L'ONU a débloqué en urgence 45 millions de dollars pour aider la population, notamment en eau et en nourriture en Somalie, mais aussi dans certaines régions de l'Éthiopie et du Kenya. 2,2 millions de personnes risquent la famine d'ici à septembre en Somalie. Quelques 3,2 millions d'autres personnes risquent d'avoir des difficultés à s'approvisionner en nourriture sur la même période.
Nos infos sur voaafrique.com.
Le président français Emmanuel Macron a plaidé aujourd'hui dans son discours commémorant le débarquement du 6 juin 1944 en présence du président américain Donald Trump, hostile au multilatéralisme, à ne jamais cesser de faire vivre l'alliance des peuples libres. L'Amérique n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se montre fidèle aux valeurs universelles que défendaient ses pères fondateurs lorsqu'il y a près de 2 siècles et demi, la France vint soutenir son indépendance, a ajouté le président français lors de cette cérémonie solennelle en présence présence de vétérans qu'il a décorés de l'ordre de la Légion d'honneur. Les ministres des Finances du G20 se retrouvent ce week-end au Japon avec un sujet dans toutes les têtes, l'offensive commerciale américaine qui, après quelques mois d'accalmie, est repartie de plus belle, menaçant la croissance mondiale. Un an que l'affrontement Chine-États-Unis dure, mais le conflit a pris une nouvelle dimension depuis l'abrupte fin des discussions le 10 mai entre droits de douane punitifs, liste noire d'entreprises et propos peu amènes. Les deux puissances semblent aujourd'hui loin de l'accord tant espéré au sommet du G20 à Osaka fin juin entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping, et la menace étant désormais au Mexique voisin des États-Unis. Depuis 2014, les États-Unis célèbrent en juin le patrimoine des immigrants. À cette occasion, le maire de Washington, D.C., Muriel Bowser, a officiellement lancé un mois de célébration communautaire. Compte rendu, signé Azuma Compaoré.
En louant la contribution de ces immigrants, Washington D.C. célèbre aussi la diversité de sa population. Une diversité qui, selon la maire Muriel Bowser, enrichit la capitale fédérale américaine.
Nous célébrons aujourd'hui parce que nous savons que la diversité nous rend plus forts et qu'à Washington, nous sommes aussi forts que nos communautés les plus vulnérables.
Plus tôt cette année, Washington a alloué un fonds de $100,000 pour couvrir les frais de demande de naturalisation. Un investissement qui illustre la volonté croissante de la ville d'offrir toutes les opportunités à ses immigrants. Cela fait plusieurs années que Patience habite Washington D.C. où sont nés deux de ses quatre enfants. Avec le chèque de $725 qu'elle a reçu et qui représente les frais de naturalisation, elle se dit qu'il est maintenant temps pour elle de devenir citoyenne américaine.
Je vis ici depuis 52 ans et je n'ai jamais pensé à prendre la citoyenneté jusqu'à présent. Cela me touche beaucoup de recevoir ce chèque aujourd'hui et je tiens à remercier la maire de nous avoir ouvert la porte ainsi qu'aux générations futures.
Des événements et des programmes comme celui-ci sont organisés dans toute la ville pour sensibiliser les gens à ce que cela signifie être un immigrant, une question que nous avons posée aux Washingtoniens. Chemika Farquhar est d'origine trinidadienne. Elle est fondatrice de Soca Tribe, une organisation spécialisée dans le fitness communautaire.
Mes parents sont des immigrants et ils ont su créer un environnement dans lequel je pouvais connaître et assumer les valeurs de chez nous. Il faut du courage pour quitter ce que l'on connaît déjà, ce qu'on a de familier et avec lequel on est peut-être confortable.
Jennifer et Daniel sont tous les deux immigrants respectivement du Honduras et de Colombie. Pour eux, pas de meilleur moyen de célébrer leur joie de vivre dans la capitale américaine que de danser.
Nous voulons nous exprimer en faisant ce que nous aimons, la danse.
Vous embrassez le monde quand vous venez ici. Vous montrez au monde que vous pouvez, en tant qu'immigrant, apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture que vous ne connaissez pas, et c'est génial.
Gambo est habitante de Washington D.C. Elle est originaire de Colombie.
Ça veut dire que nous nous réunissons tous pour créer quelque chose. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi nous venons ici, pour être quelque chose, pour être ensemble, pour être unis.
Elisabeth Ngachu habite à Washington D.C. Elle est originaire du Cameroun.
Je suis immigrée, donc je dois apprendre tout. Je dois m'ajuster. Je dois m'adapter. C'est pas quelque chose de facile à faire.
Et alors que les habitants de Washington D.C. passent devant l'installation du cœur géant sur la place civique de Columbia Heights, un message important leur est rappelé, celui de célébrer la diversité partagée, ce tissu unique qui fait l'Amérique, non seulement pendant le mois du patrimoine de l'immigrant, mais également chaque jour de l'année.
Merci Arzuma. Le pape François recevra le 4 juillet prochain au Vatican le président russe Vladimir Poutine, indiqué aujourd'hui le Vatican dans un bref communiqué. Cette rencontre sera la troisième entre les deux hommes, le pape ayant reçu pour la dernière fois le président russe en juin 2015. Et puis le premier ministre japonais Shinzo Abe prévoit de se rendre en Iran la semaine prochaine, ont indiqué aujourd'hui des responsables officiels, alors que Tokyo espère servir de médiateur entre Washington et Téhéran. Au moment où la tension monte entre les États-Unis, grand allié du Japon et l'Iran, M. Abe a, selon la presse japonaise, proposé de servir de médiateur en menant directement des discussions avec les dirigeants iraniens. Le prochain journal sera l'affaire de Henri Francis. Ce sera dans 50 minutes. Merci de nous suivre. Merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.